France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Nous sommes en septembre 2014. François Hollande est président de la République. 6 mois plus tôt, il a quitté sa compagne, Valérie Trierweiler, pour la comédienne Julie Gayet. Blessée à vif, la première publie alors un livre à charge sur son ancien compagnon, intitulé « Merci pour ce moment ». Elle y attaque notamment le président socialiste en lui attribuant un véritable mépris pour les pauvres et les plus démunis, qu'il surnommerait, dit-elle, les « sans-dents ». Le président s'en défend vigoureusement. Trierweiler contre-attaque en produisant un SMS pour le moins embarrassant. Au-delà de la polémique, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que nous dit cette expression, les sans-dents, du puissant marqueur social constitué justement par les dents. Comme si notre dentition donnait infailliblement, en un coup d'œil, des indications précises sur notre place dans la société. Ceux qui peuvent sourire à pleines dents, les privilégiés, ceux qui au contraire cachent leur dentition en évitant soigneusement de sourire, et aussi ceux qui ont renoncé, les plus pauvres, les sans-dents. La fracture économique est nette également. 30% des Français environ ont déjà renoncé à se faire soigner les dents pour des raisons financières. Mais perdre ses dents, c'est plus qu'on imagine. C'est perdre sa dignité, une partie de son intimité, sa place dans le monde, une possibilité de survivre. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, ce que nos dents disent de nous et du monde dans lequel on vit. Un épisode qui n'est pas du dentiste bashing, je le précise, par Antoine Guirimand.
Alors, je suis auvergnate d'origine, je suis fille de paysan. Et au niveau de mes dents, j'ai eu des problèmes de dents avant même d'exister. J'avais 2 grands frères et ma maman avait fait beaucoup de fausses couches après mes 2 grands frères. Donc, on lui avait ligaturé les trompes. Elle n'était pas censée avoir d'autres enfants. Un jour, elle est tombée très malade, etc. Personne ne savait ce qu'elle avait. On lui a prescrit tout un tas de radios et de médicaments à prendre, ce qu'elle a fait consciencieusement. Et puis, comme on ne trouvait toujours pas ce qu'elle avait, elle est allée voir une rebouteuse. Et la rebouteuse a dit bah, « t'es enceinte ?» Donc elle a dit bah, « ça m'étonnerait ». Elle était effectivement enceinte. Or donc, elle avait pris tous ses médicaments. Et son médecin, qui lui avait prescrit ses médicaments, lui dit « Oh, bah, vous saurez que ces médicaments-là, ça fait les dents jaunes au bébé. » Donc à moi. Je n'existais pas encore, je n'avais pas encore de dents, mais j'avais déjà des problèmes de dents. Je grandis dans une ferme en Auvergne, tout en haut d'une montagne. Mes parents sont paysans, des petits paysans. On a une ferme avec une dizaine de vaches, un petit troupeau de moutons. Et ils sont très pauvres. Et en plus, ils sont très âgés. Donc c'est vraiment une génération qui vit un peu dans un autre siècle. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de salle de bain, on n'a pas l'eau chaude. Petite, j'ai pas de brosse à dents, j'ai pas de dentifrice, tout ça j'ai pas. Mes parents portent des dentiers, tous les deux. Donc il y a une brosse à dents à la maison qui est dans un placard au-dessus de l'évier pour nettoyer leurs dentiers, en fait. De temps en temps, ils sortaient leurs dentiers de leur bouche, puis ils le brossent avec la brosse à dents au-dessus de l'évier, là, sous le robinet. Donc je ne me suis jamais brossé les dents quand j'étais petite. Et je rêvais de me brosser les dents. J'aurais adoré me brosser les dents comme le faisaient des enfants à la télé, dans les pubs pour le dentifrice ou dans les séries. Moi, je trouvais ça trop classe. Donc, j'aurais adoré faire ça. Mais je n'ai jamais fait ça. Et je me rappelle vraiment de ce sentiment de fascination, d'envie, de jalousie, de voir des personnages, surtout dans des séries, des films, qui se brossent les dents, qui sont propriétaires d'une brosse à dents. Et surtout, ce que je trouvais fascinant, c'est le dentifrice. Les publicités pour le dentifrice, c'est extraordinaire. Il y a cette virgule magnifique de dentifrice qui est posée sur la brosse à dents, comme ça, qui est harmonieuse, qui est voilà, magistrale. Et je trouvais ça trop beau. Et je rêvais de pouvoir faire une magnifique virgule de dentifrice sur la brosse à dents. Bon, On va m'amener néanmoins chez le dentiste parce que j'ai évidemment des caries. Alors, personne ne semble relier ça au fait que je ne me brosse pas les dents. Il n'y a pas de question qui est posée sur le sujet. Mes grands frères n'ont jamais dû se brosser les dents non plus. Alors, mes grands frères n'ont plus de dents. Voilà. Mais tout le monde a un dentier. Je veux dire, autour de moi, tous les paysans, tout le monde a un dentier. Il y a pas de... enfin, les gens perdent leurs dents, font mettre un dentier, et voilà, c'est la pratique. La première fois que je vais avoir une brosse à dents, c'est quand j'ai 14 ans que je rentre à l'internat. Ma mère avait soigneusement préparé un trousseau selon la liste indiquée par le lycée. Évidemment, dans la liste indiquée, il y avait une brosse à dents et du dentifrice. Donc j'ai ma brosse à dents, ça y est, c'est bon. Alors, je suis extrêmement heureuse d'avoir ma brosse à dents, sauf que je ne sais pas ce que je dois en faire. Donc le premier soir, j'arrive avec ma brosse à dents toute neuve et mon dentifrice tout neuf, et je veux faire ma virgule magnifique de dentifrice. Et ça marche pas du tout, cette histoire. Ce que j'appuie dessus, ça, il y en a dans tous les sens, sur le miroir, machin, et ça fait pas du tout la belle virgule attendue. Ça fait un gros pout dessus. Bon, déjà, première déception, la virgule, c'est impossible. Et ensuite, donc je regarde les autres. Et force est de constater que personne ne se brosse les dents de la même façon. Il y en a qui mouillent la brosse à dents d'abord, il y en a pas du tout, il y en a qui se brossent les dents vite fait. Je comprends rien. Je me dis, mais c'est quoi ces gens? Ils savent pas faire, en fait. C'est quoi le vrai protocole de brossage des dents? J'avais vu quelque part que c'était 3 minutes, donc je reste là à me brosser les dents. Je saigne des gencives, j'en mets partout, c'est une horreur. Et quand j'arrive au lycée, c'est là que je vois pour la première fois, en vrai, pas juste à la télé, dans des séries, des enfants de bourgeois avec des dents merveilleuses. Alors, non seulement ils ont des dents merveilleuses, mais en plus ils les utilisent, c'est-à-dire qu'ils sourient à pleines dents, et je suis dégoûtée. Je trouve ça scandaleux. Nous, vraiment, on cache notre honte, et on sourit par terre. Et eux, ils sourient au monde, quoi, vraiment. La vie leur réussit, ils sont là, la bouche ouverte toute la journée, à sourire à pleine. Ouais, c'est terrible. Ah, je rêvais d'avoir des dents blanches. Je rêvais d'avoir un sourire éclatant. C'est vraiment la première chose que je regardais chez les gens, les dents. Ma dernière année de lycée, je vais rencontrer un homme avec qui je vais sortir, puis me mettre en couple, puis vivre, et qui va devenir violent avec moi quand je serai enceinte de mon premier enfant. Les coups commencent sur les bras ou ailleurs. Mais quand il va commencer à frapper le visage, je vais très rapidement perdre des dents. Alors, il y a notamment une séquence où il met dans ma bouche le canon d'un fusil, d'un coup extrêmement sec, et du coup ça me fait sauter et ça me casse beaucoup de dents d'un coup. Et ça me les casse mal en plus, ça en arrache la moitié, il y en a d'autres qui pendent toujours. Bref, donc je vais finir par aller chez le dentiste, mais... la situation est compliquée, je ne peux pas dire la vérité. Se faire soigner est compliqué aussi, parce que ça a un coût très très important, les dents. Ce dentiste, il va me mettre la solution la moins chère, à savoir des dents sur pivot. La dent sur pivot, c'est vraiment un cauchemar absolu. On enlève la vraie dent, ce qu'il en reste, et on met un pivot, donc un petit truc qu'on enfonce dans la mâchoire. Et sur ce petit pivot, donc, vient se planter une fausse dent. J'ai plus une seule dent de la même couleur. À des endroits, il en manque. Et le problème, c'est que ça tient pas, en fait. Donc, je passe mon temps à récupérer mes dents. Je passe des moments fabuleux. Alors, à un moment, je travaillais en intérim dans une usine de compote de poire. Les camions déversaient des poires sur un tapis roulant. Et moi, j'étais au premier poste, donc je triais, j'enlevais les branches, les feuilles, les cailloux. Et donc, j'enlevais tous ces trucs-là. Et à un moment, il y a quelqu'un, un collègue qui passe et qui me dit un truc marrant, je sais pas quoi. Donc moi, je rigole et pan, ma dent tombe sur le tapis. Donc, oh putain, ma dent ! J'appuie sur l'arrêt d'urgence qui est censé être pour quand on se coupe une main ou voilà, un truc comme ça. Et donc, urgence dans l'usine, tout le monde vient voir qu'est-ce qui se passe. Je leur dis, ah, bougez plus, j'ai perdu ma dent. Et moi, je suis là, évidemment, avec un grand trou dans les dents devant. Et donc, toute l'usine vient et m'aide à chercher ma dent. Donc, on est tous comme ça. Puis, il y a le chef qui descend, quoi, qui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a l'usine qui tourne plus. Et on cherche la dent. Et donc, on est là à chercher ma dent. Donc, on se fait tous pourrir la gueule en disant, vous relancez tout de suite. Je dis, ah non, hein, ma dent, elle finit pas dans la compote parce que moi, j'en ai qu'une. Je retrouve ma dent, je vais la laver, la recoller encore une fois avec ma colle rose et puis c'est reparti. Des trucs comme ça, ça arrivait tout le temps. Père de mes enfants va détruire petit à petit la majorité de mes dents en me mettant d'autres coups. Donc finalement, toutes les dents disparaissent, quoi. Quand j'ai réussi à quitter cet homme, j'avais un sourire, on va dire, très imparfait. Je souriais beaucoup, mais toujours la bouche fermée. Après, ça, c'était habituel. J'avais passé ma vie à sourire la bouche fermée. Donc, et à voir les gens autour de moi sourire la bouche fermée pour ce qui est de ma classe. Je vais mettre ensuite plusieurs années à reconstruire mon sourire. Alors, mon sourire, j'ai envie de dire intérieur déjà, mais mon vrai sourire aussi, mon sourire physique. Et je vais me lancer dans des démarches auprès d'un dentiste pour pouvoir me faire refaire les dents. J'ai pris contact avec un dentiste. Là, le mec m'a dit, oh là là, bon, il faut refaire la façade, quoi. Il faut tout tomber, tout enlever. Et voilà, il m'a proposé plusieurs solutions très chères, à plusieurs milliers d'euros, à ma charge. J'ai étalé ça sur plusieurs années. Donc, j'ai pris des implants. Donc, j'ai 14 dents fausses en haut et en bas, 4. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il vous fait choisir la teinte. Moi, j'avais dit, bah, je veux celle-là. Celle-là, c'était sourire de rêve. C'était vraiment la couleur éclatante. Et il m'a dit, ah, bah, non, pas celle-là. Parce que en bas, vous avez toujours des dents. Et du coup, il faut que ça soit la même couleur que les dents d'en bas. Et aux dents d'en bas, bah, elles sont pourries. Donc, enfin, elles sont pourries. Elles ne sont pas blanches comme ça. Et si vous mettez super blanc en haut et puis jaune moutarde en bas, ça ne va pas faire, quoi. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, vous, votre choix, c'est entre, voilà, jaune moutarde et puis jaune un peu moins moutarde. Ça m'a changé la vie parce que je pouvais de nouveau évoluer en société, que j'ai un sourire qui est acceptable. Beaucoup de gens pensent que parce que j'ai des dents qui ressemblent à des dents, du coup, ça y est, c'est la fête. Je souris avec la bouche ouverte tout le temps, alors que non, en fait. Je souris toujours la bouche fermée. Quand tu as des dents qui ne sont pas en état, tous les liens sociaux, tous les rapports sociaux sont difficiles. Quand on te dit, voilà, on va manger ensemble, ouais, ok. Mais là, toi, tu commences à réfléchir. On va manger, qu'est-ce qu'on va bouffer, quoi ? Ah bon, on va manger des pommes. Ouais, t'as un couteau avec ? Parce que moi, je peux pas croquer dans une pomme, en fait. Ça, c'est encore maintenant. Je peux pas, je sais que je peux pas, je vais pas risquer mes dents sur un truc que je ne peux pas attaquer avec, quoi. Dans mon travail actuel, dans mon engagement actuel, j'accompagne des personnes exilées. Là aussi, j'ai pris quelques droites dans les dents par des petits fachos qui ne voilà, sont pas tellement d'accord avec le but de mon engagement. Et ben, mes fausses dents tiennent mieux que les vraies. Donc voilà, je ne peux pas mordre des pommes, mais je peux quand même mordre des fachos.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Marine Amné, j'ai 39 ans, je suis maman de deux enfants. J'habite dans le 15e arrondissement, c'est dans les quartiers nord de Marseille. Alors, je suis partie voir le dentiste Gage par les conseils d'une amie. J'avais une très grosse rage de dents située au molaire inférieur. Il prenait en fait rapidement, c'était sans rendez-vous. Donc j'ai appelé. Dans la demi-heure qui suivait, j'étais déjà à son cabinet. Lionel Gage, il travaillait en binôme avec son papa. Alors il m'a pris, j'ai fait une radio panoramique des dents. Il a dû faire des travaux sur la molaire où j'avais mal. Et ensuite, tu m'as dit qu'il y avait d'autres dents qui étaient atteintes. Voilà, des dents, pour moi, qui étaient saines parce que pas de douleur, pas de caries. Alors, il m'a redonné un rendez-vous, je pense, 2-3 jours après. Moi, j'étais très jeune, j'avais pas de connaissances en termes de soins bucco-dentaires. Alors, on fait confiance, hein. Pour nous, c'est le médecin, c'est le sachant, c'est le savant. Et je lui fais entièrement confiance. Surtout que il a une façon de nous aborder, il met en place tout de suite le tutoiement, comme si c'était notre collègue, donc très à l'aise. Je me suis dit que c'était un ami. Je suis en sécurité, c'est un médecin, il va prendre soin de moi. Et ouais, je m'installe tout de suite sur le fauteuil. J'avais 22 ans. Il me donne un rendez-vous très rapidement dans la semaine. Il me fait tout de suite les empreintes. Moi, je lui pose une seule question, je lui dis « mais qu'est-ce que vous allez me faire ?» Il m'a dit « ne t'inquiète pas, je vais te faire un sourire de star ». Mais moi, j'avais des super belles dents et j'étais réputée pour avoir des super belles dents. Et là, il commence par m'anesthésier tout le haut des dents. Je ne me posais pas les questions. Pour moi, il me faisait un détartrage. Honnêtement, j'étais même anesthésiée du cerveau pour vous dire que je ne me suis pas posé la question qu'est-ce qu'il était en train de me faire. Pour moi, il me faisait quelque chose qui allait me faire du bien, qui allait me réparer et que j'allais être contente. Voilà. À la fin du deuxième rendez-vous, il me redonne un troisième rendez-vous pour la continuité des soins. Donc, je me rends au cabinet quelques jours après. Il m'installe. Je vois qu'il sort des instruments, des fraises et qu'il les passe dans toutes mes dents. Il me dit juste « ouvre ta bouche, ferme, ouvre, ferme ». Il me refait une propreté avant de partir. Je me regarde au miroir, mes dents. Je ne peux pas vous décrire exactement le sentiment que j'avais. Pour moi, c'était encore normal. Il m'a dit, tu fais attention quand tu manges. Pas de matière solide, pas de pommes, pas de pain, pas de bonbons, pas de caramel. Je repars du cabinet avec mes dents. Pour moi, c'était mes dents. La même couleur, la même forme, identique. Je sentais juste que c'était une sensation bizarre sur mes dents. À la fin du troisième rendez-vous, il me dit que je vais revenir, qu'il envoie mes empreintes au laboratoire pour les confectionner et que je vais être super contente de mes dents définitives. Donc déjà que ça, des dents définitives, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends toujours pas ce qu'il me dit, vraiment. Et j'attends comme ça pendant 2 ou 3 jours. Au bout du troisième jour, bon, mais j'ai pas tenu à ces règles, hein, je l'ai pas écouté, j'ai quand même mangé quelque chose de dur. Et là, le jour de la catastrophe est arrivé. J'ai senti quelque chose descendre de mes dents. Je me suis approchée du miroir et là, je vois que ça s'est découlé. Alors, je tire, moi, pour savoir par curiosité, qu'est-ce que c'était. Je tire et je vois que le proviseur est tombé et sous le proviseur, des dents en pic, en piranha. Je me rends compte qu'il m'a taillé les dents sans me le dire, sans mon autorisation, parce que ça aurait été non d'office. Je comprenais pas qu'est-ce que c'était, mais en fait, oui, c'était un bridge provisoire en résine que j'avais. C'était pas mes dents. J'ai été sous le choc. Sous le choc. Je l'ai de suite appelé. Il m'a dit, ah, viens, je te le recolle, elles sont pas encore prêtes, tes dents. Mais c'est rien. Il m'a dit, c'était le protocole normal que tes dents, elles étaient pourries. J'étais obligée de te les nettoyer. Par contre, tu vas avoir des dents. Il m'a dit, je veux pas te laisser comme ça. J'ai dit, ok, mais mes dents, quelles dents? Il m'a dit, des super belles dents, des dents de star. Mieux que ce que tu avais. C'est à ce moment-là que je me rends compte que mes dents vont changer, que j'aurai plus les mêmes dents. Mais encore dans ma tête, je me dis que j'aurai des plus belles dents que ce que j'avais. Jusqu'au jour où il m'appelle pour me dire qu'il a reçu mes dents définitives. Et là, c'était l'hécatombe. Des très grosses dents, très blanches, très mal taillées, pas du tout ma forme, très bombée, avancées avec un écart au milieu alors que j'avais pas d'écart du tout au milieu. Ça faisait des dents de cheval vraiment pas naturelles du tout. J'étais choquée, je lui disais « mais c'est quoi ça, c'est pas beau, je suis pas belle ». Il m'a dit « mais non, t'inquiète pas, la gencive elle va tomber, elle va recouvrir un peu le haut des dents, on va pas avoir la céramique, il faut attendre que ta mâchoire elle prenne l'habitude ». Et ok, donc ça a toujours été ok, d'accord, ça marche. Quand j'ai posé mon bridge définitif, j'étais très très mal dans ma peau. Je souriais plus dans toutes les photos, dans toutes les vidéos que je regarde jusqu'à maintenant. J'ai toujours le sourire fermé. Je montre jamais mes dents. et surtout les réflexions que j'avais de la part des gens, que ce soit ma famille, mes amis, qui me disaient mais qu'est-ce que tu as fait dans ta bouche, pourquoi tu as fait ça, tu avais des super belles dents, ils comprenaient pas. Quand ils me disaient ça, je leur répondais je sais pas, je leur disais exactement je sais pas, c'est le dentiste qui m'a fait ça. Je répétais les mots qu'ils me disaient, j'avais les dents pourries. J'ai vu que mon mari, il avait plus le même regard sur moi. Ça m'a mené à un divorce. Mes lèvres, elles étaient toutes plates. J'avais perdu de l'os. Et franchement, j'avais complètement changé de visage. Ensuite, il y a eu des complications qui ont commencé à s'installer. Kystes, infections, mauvaise haleine. Les gencives qui se rétractaient, on voyait le fer gris. Je faisais qu'aller le voir, hein. C'était antibiotique sous antibiotique. Je comprenais pas pourquoi c'était comme ça, je comprenais pas. Est-ce que c'est provisoire encore? Je me suis posé vraiment des questions comme ça pendant peut-être 7 ou 8 ans. Pourquoi il m'a fait ça? Mais pour moi, il m'a soigné. C'est encore un docteur. Donc il m'a fait ça pour me faire du bien. Un jour de 2012, j'étais en train de cuisiner chez moi. J'avais la télé qui était allumée et là, c'était le journal de M6 qui passait. Et j'entends le père et le fils arrêtés, dentiste, mutilation dentaire. Je me suis de suite retournée et je savais que c'était eux. J'ai même pas attendu que les informations terminent. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tout de suite mon avocate et je me suis portée partie civile. Toutes les questions que je me posais, que je pensais que j'étais folle, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'y suis allée, le divorce. En fait, j'ai su que j'étais pas folle. Voilà. Et que c'était eux qui faisaient l'erreur, c'était pas moi. Qui avait un manque de compréhension. Lors de l'instruction, je pensais que j'étais la seule à avoir subi ça. Mais on était plus de 1000 personnes. On s'est toutes retrouvées et on a monté un groupe WhatsApp où on pouvait échanger, où on pouvait discuter, parler. Pendant l'instruction, je me rends compte que lors du deuxième rendez-vous, il m'a dévitalisé toutes les dents du haut en une heure et qu'apparemment, une dent, on met à peu près 30 minutes pour la dévitaliser en deux fois. Ça veut dire deux fois 30 minutes pour une seule dent. Il a mis une heure, 18 dents. Une heure, 18 dents. C'est un film. Le procès passe en 2022. Je pensais qu'il allait être jugé, qu'il allait être condamné, qu'on allait être indemnisé, qu'on allait pouvoir faire nos soins, etc. Mais pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Lionel Gage, il a été condamné à 8 ans de prison et son père à 5 ans. Ferme, et ils ont fait appel. En appel, ils ont repris la même peine. 98% des victimes de Gage sont d'origine maghrébine, issues des familles défavorisées. On est des enfants d'immigrés, donc je pense que c'était un plan prémédité. Gage, j'en suis sûre à 10 000% qu'il s'est dit ça, je vais mutiler la bouche des personnes qui étaient dans le quartier nord. Pour la pas du gain. Il a fait des millions d'euros, de toute façon, hein. Les Porsche, les villas, les résidences, les yachts, les bateaux, sur le dos de la misère des gens. Hein. Mes dents sont une mine d'or pour lui. Mes dents, nos souffrances. Voilà. Et moi, je pense que 8 ans, c'est pas assez. Parce que nous, c'est à vie. Nous, c'est à vie, nos souffrances vont durer à vie. De 2012 à 2021, pendant toute l'instruction, personne ne voulait me prendre pour me soigner, pour me faire les travaux bucco-dentaires. Et en 2021, j'ai pu trouver un dentiste dans mon secteur. Je pense que comme les dates commencent à sortir du procès, ils ont dit « bon, allez, on va... » En tout cas, lui, il a bien voulu m'accepter et il a commencé les soins en 2021. Il a pu me réparer, on va dire, ce qu'il a pu. Voilà. En fait, c'est très cher, les dents. J'avais pas les moyens. J'avais des devis à 30 000, 35 000 euros pour refaire toutes les dents. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore énormément de soins à faire, comme une greffe de sinus, une greffe de gencive, une greffe d'os. Bon, j'ai très peur parce que je pense que j'en ai un peu ras-le-bol de toutes ces anesthésies, de me retrouver sur cette chaise, malgré que j'ai très confiance par contre à mon dentiste, mais on est quand même dans un cabinet dentaire et ça a créé des traumatismes, tout ce qui s'est passé. C'est très dur mentalement de supporter tout ça. J'ai eu comme indemnité 7 000 euros de provision. Là, j'attends toujours le reste. Tout a une durée de vie, que ce soit l'implant, le bridge. Tous les 10 ans, c'est entre 15 et 25 000 euros de soins qu'on va devoir sortir de notre poche. On est victime, on n'a pas demandé à Gage de nous démonter la bouche, quoi. Donc, on devrait avoir une carte à la sécurité sociale que si on doit faire des soins bucco-dentaires, on doit être pris en charge à 100%. C'est quelque chose, c'est à vie. Moi, pour moi, c'est un handicap, ça, c'est sûr. En fait, voilà, j'ai honte, c'est le mot. Honte d'avoir subi ça, d'avoir été naïve et de m'avoir laissé faire par ce bourreau. On est des centaines de victimes, on s'est tous retrouvés pendant des jours et des jours lors du procès. Et avec une amie à moi, Samia Zidane, on a décidé de monter une association ensemble. L'association s'appelle Dents pour Droit. C'est pour se retrouver avec des personnes qui peuvent nous comprendre, voilà, qui nous comprennent parce que on a été tellement incompris pendant des années, que ce soit par la justice, par les parents, par les amis, par la famille, par les maris, qu'il n'y a que entre nous qu'on peut se comprendre. Et maintenant, j'ai repris un peu goût à la vie, je souris. Depuis que j'ai retrouvé mon sourire, que j'ai été réparée, oui, je souris beaucoup plus. On voit quand même la différence, le avant et l'après, sur les photos. Même les personnes, ils me disent « tu es plus souriante, tu es plus solaire ». Voilà.
C'était Dents pour Dents, un reportage d'Antoine Guérimont réalisé par Louise André. Merci à Marie, à Nordi, à Olivier Siran, à Mathilde Seille, à Samia Zidane, à Abdel Awacheria et une spéciale dédicace à un certain Eric N, palme d'or des dentistes, car il y en a. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Mina Morel. Non è reale, non è reale, non è reale, non è reale.